En effet, je suis ravie et heureuse de vous retrouver chaque mercredi entre 11h et midi, rediffusion le dimanche soir et toute la semaine sur le site de la radio pour parler littérature avec vous et avec les auteurs que j'ai le plaisir de recevoir. Aujourd'hui, dans un instant, Cécilia Duterre sera mon invitée pour nous présenter son dernier ouvrage intitulé « Patience du quotidien » et publié aux éditions Salvator. Ensuite, Nicole Skinazitoboul nous proposera sa chronique consacrée au mot « patience ». Et puis, dans la deuxième partie, alors nous devions recevoir Viviane Cohen, une auteure lyonnaise, pour son deuxième recueil de poésie intitulé « Le tumulte de mes sentiments ». Paru aux éditions Spinel. Hélas, Viviane est souffrante, alors nous lui souhaitons vraiment un bon rétablissement. Nous aurons l'occasion de parler avec elle et de présenter son livre. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure si vous voulez bien, et puis nous reprendrons date avec Viviane en espérant qu'elle se rétablisse vite. Alors nous découvrirons la chronique de Bernard Massoubre. Vous connaissez Bernard, c'est un chroniqueur habituel sur l'antenne de Radio Judaïque à Lyon. Il nous propose sa chronique Les Polar de Bernard. Vous l'aurez compris, c'est un passionné de polar. Et aujourd'hui, il nous parlera d'un livre qui a été présenté lors de la rentrée littéraire 2021, donc de janvier. Un livre de Romain Slocombe, l'inspecteur Sadorski, Libère Paris. Un livre paru aux éditions Robert Laffont que Bernard Massoubre nous présentera tout à l'heure. Mais tout de suite, comme promis, Cécilia Duterre. Bonjour Cécilia.
Bonjour Patricia, bonjour à tous.
Merci, heureuse de vous accueillir à nouveau sur Radio Judaïque à Lyon. Vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien. Aussi.
Très bien, moi je vous entends un peu loin.
Sur votre antenne, oui. Dans votre belle émission.
C'est gentil. Alors Cécilia Duterre, vous êtes romancière, essayiste. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, dont quelques-uns pour lesquels nous avons eu le plaisir de vous recevoir sur cette antenne. Parmi ces livres très remarqués, deux ont été consacrés à Eti Ilsoum, une lumineuse jeune femme juive dont les écrits, heureusement, nous sont parvenus, alors qu'elle-même a été assassinée à Auschwitz en 1943. Vous avez largement contribué à faire connaître à la fois sa personnalité particulièrement attachante et son œuvre, et vous présidez l'association des Amis d'Eti Ilsoum. Vous êtes toujours très, très investi dans cette association, je pense.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On fait beaucoup de choses dans le cadre de l'association, beaucoup de manifestations autour d'Eti Ilsoum, qui est maintenant très connue. Hein.
Oui,
on fait notamment des colloques, moi je donne beaucoup de conférences aussi autour d'Eti dans la France entière. Je continue cette mission de la faire connaître le plus largement, parce que je crois qu'effectivement sa foi très universelle, son regard sur la vie, son regard aussi sur la mort, est très aidante. Ses écrits sont très riches d'enseignements, vraiment, dans nos propres vies à nous.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Eti Ilsoum, on sent qu'elle vous a vraiment marqué. Vous l'évoquez à deux reprises dans cet ouvrage, on aura l'occasion d'en reparler. Dans ce nouvel ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un recueil intitulé « Patience du quotidien » que vous nous proposez. Il est publié aux éditions Salvator. Et dans cet ouvrage, vous partagez avec vos lecteurs, vos réflexions, vos sentiments sur la vie, ces instants de vie, des chapitres courts, des instantanés, pour nous inviter à la patience que vous décrivez comme une vertu cardinale. Expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là, Cécilia.
Oui, c'est vrai que le mot patience recouvre plusieurs acceptions, hein, mais qui toutes renvoient à l'idée d'un effort à faire pour l'individu. C'est une aptitude qui vient brider notre tempérament premier, mais c'est aussi prendre patience, c'est aussi cette capacité à supporter les petits et puis les grands désagréments de l'existence, et puis c'est aussi savoir persévérer dans l'action, hein, sans se décourager. Et donc c'est quelque part une vertu effectivement cardinale, comme vous le dites, pour affronter le quotidien. Et pourtant, dans une société, où souffrir est un gros mot, où la vitesse nous gouverne, où l'expectative, l'attente est perçue comme un affront à cette espèce d'hyperactivité dans laquelle on vit, eh bien, très curieusement, c'est pas une vertu que l'homme moderne a serait tellement apte à cultiver.
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Alors j'ai effectivement dans ces billets, vous le dites très bien, c'est un regard à la fois spirituel sur nos parcours, sur l'époque que ces parcours croisent et l'idée était de mettre en parallèle la fébrilité hein, dans laquelle on vit, cette espèce de fébrilité qui nous habite et qui s'oppose à mes yeux en tout cas à cet infini, enfin autant céleste, autant transcendant, autant de Dieu, cette infinie patience, cette infinie intelligence de la vie avec un V majuscule dont justement le pouls est tranquille, il est régulier et il est surtout très indifférent en fait au bon bruit que fait l'homme, je dirais au bruit avec des guillemets bien sûr,
oui, bien
à cette
sûr.
Hyperactivité. Donc c'était à mettre en relation ces deux temps tempo, notre temps conjoncturel et puis le temps de Dieu, le temps céleste qui lui est dans une patience infinie vis-à-vis de l'homme. Voilà.
Le paradoxe qu'on peut relever à notre époque, c'est qu'en fait il nous faut apprendre la patience et vous nous invitez à le faire avec des conseils très, très précieux, très simples mais très précieux, alors que nos vies, vous le disiez à l'instant, Cécilia Duterre, sont de plus en plus trépidantes, notre rythme de vie est de plus en plus rapide et on se rend compte qu'on ne prend plus le temps de se poser, de réfléchir, de méditer, pourquoi pas. C'est ça en fait le véritable enjeu, c'est d'apprendre la patience. Comment apprend-on la patience ?
Ça, c'est une... bah, justement, il faut une vie et c'est un petit peu l'idée du recueil aussi, c'est d'être pour construire le plan du recueil, j'ai eu l'idée de faire une analogie entre le déroulé d'une vie d'homme et celui d'une journée. Alors en fait, évidemment, le plan, c'est quatre parties, si vous voulez. On commence, l'aube correspond à nos commencements, ce sont nos balbutiements dans la vie. Et puis aussi, on esquisse quelque part, mais on est émerveillé, on est innocent, on balbutie. Mais en même temps, c'est un regard aussi très émerveillé sur le monde et c'est beau aussi ce moment des commencements. Alors effectivement, dans ce titre, on trouve des billets, par exemple, sur ce regard d'enfant qu'on devrait savoir peut-être parfois se réapproprier pour lire la vie d'une façon plus simple, plus directe. Hein. Et puis, ce sont aussi des billets sur nos erreurs de débutants, sur nos failles, hein, sur ces bonheurs minuscules du quotidien auquel on ne prête pas plus tellement attention après, sur le rire, pour beaucoup de billets autour de ces commencements. Puis après, on continue dans la journée de cette vie d'homme. Le soleil est au zénith et c'est ce que j'ai appelé dans le recueil l'heure méridienne. Alors c'est le temps là de la construction de notre vie d'homme et donc on retrouve là des billets par exemple sur vous parliez d'instantané, alors moi je parlais par exemple de la révolution amoureuse qu'ont instauré dans nos vies les réseaux sociaux, cette hyper accélération du temps aussi et de nos amours sur les réseaux sociaux, des chroniques aussi autour de la crise du Covid qui nous a appris, là, vous me demandez tout à l'heure, les enseignements, par exemple la crise du Covid, c'est aussi des enseignements sur la patience, il nous en a fallu de la patience ô combien pour supporter, mais en même temps ça a été aussi un temps qui nous a peut-être appris à habiter le vide, le Covid nous a appris à habiter justement ce vide existentiel que la plupart du temps on tente de fuir.
La crise sanitaire est
toujours, ces billets mettent en exergue, en fait, souvent avec humour, en tout cas avec distance, des petits écueils de notre temps, mais sur lesquels j'ai beaucoup de tendresse, parce que moi, je m'inclus complètement dans ces écueils du temps. Et en même temps, une façon de prendre un peu de recul sur ce quotidien.
Oui, absolument. À travers ces chapitres courts mais intenses, vous délivrez effectivement tout au long de ce recueil de véritables le message d'espoir, même si, comme vous venez de le souligner, la crise sanitaire que nous connaissons dans le monde entier actuellement et depuis 2 ans, a modifié notre façon de vivre et le rythme de nos vies qui s'est imposé à chacun de nous. Vous dites, page 23, vous évoquez cette terrible distanciation physique qui a pris la forme d'une une distanciation sociale, puisqu'elle implique de se réunir le moins souvent possible. Il est vrai que moi, cette expression de distanciation sociale m'a tout de suite interpellée, peut-être même choquée, parce que comment peut-on parler de distanciation sociale ? C'est plus effectivement une distanciation physique qui nous a été imposée.
Oui, ben c'est sûr, mais cette distanciation physique à force nous a quand même... Alors bien sûr, là pour le coup, les réseaux sociaux et l'Internet nous a quand même permis oui. de garder un lien. Donc on voit aussi qu'il y a des écueils, bien entendu, mais il y a aussi ces apports. Mais il est clair que quand même, on était, il y a eu beaucoup de solitude hein, pendant ce temps très long, justement, où patience et solitude ont dû être appréhendées, mais peut-être que justement pour ça peut être aussi très riche d'enseignement si on prend aussi du recul sur ce temps. Ça nous a appris à habiter justement notre solitude, qui est une des caractéristiques de la condition humaine, en fait, hein, tout simplement.
Et vous pensez
alors dans ce recueil que je parlais d'heure méridienne, après ben effectivement on passe à l'après-midi, là c'est le temps de l'accomplissement de la récolte normalement de ce qu'on a semé au méridien de nos vies, et puis ensuite effectivement le couchant avec des billets plus contemplatifs, justement plus méditatifs sur l'approche de la mort, sur le regard qu'on porte sur la mort, sur une approche de l'éternité aussi au sein de notre finitude, oui. et puis sur l'art de la nuance, sur l'écoute du silence, toutes ces choses en fait qui normalement, je dirais, plus on va dans nos vies, plus on va loin, enfin plus on est loin dans notre parcours, et plus on doit théoriquement en tout cas apprendre cette sagesse aussi de la vie. Voilà, donc mais effectivement, en s'emparant, comme vous le dites très bien, de petits faits en fait du quotidien, mais auxquels on ne prête pas toujours attention et sur lesquels moi j'ai décidé de m'arrêter.
Oui, oui. Et c'est vrai que cette crise sanitaire sans précédent a modifié nos comportements et va sans doute les modifier sur le long terme.
Ben certainement, mais peut-être aussi qu'elle aura affûté notre vision pour toucher du doigt quelque chose aussi du mystère en fait céleste qui existe aussi dans la répétition de ce qui nous est donné de vivre, bonne ou mauvaise chose, et peut-être aussi nous aura donné l'occasion de percevoir, ne serait-ce que fugacement, le sens avec un grand S qui imprime ben, tout à la fois une direction, mais aussi une signification à notre vécu. Parce que personnellement, je crois que ben, chacun de nous a une mission hein, sur Terre, et que la trouver, la poursuivre, eh bien, ça constitue notre métier d'homme, au fond. Ouais, et peut-être que ce temps de pause du Covid nous aura aussi... permis cet approfondissement intérieur, cette intériorité à laquelle je suis moi très attachée en fait, puisque ma ligne dans mes... Vous avez rappelé que j'ai écrit j'ai commis une vingtaine d'ouvrages, mais c'est vrai que j'ai une ligne quand même spirituelle assez marquée, et l'intériorité, ce monde intérieur dans lequel se loge aussi Dieu, eh bien mes très chers. Donc peut-être que ce temps de Covid nous aura permis cette perception-là du réel.
Alors, vous en parliez il y a un instant, Cécilia Duterre, le rire ô combien important. Vous expliquez, vous écrivez, page 19, « Le rire est un moyen de communication immédiat entre les êtres, sans doute le plus simple et le plus direct, car il ouvre grand la porte du cœur. » Et vous avez pris conscience, à l'occasion d'une journée particulière, des bienfaits de l'humour partagé. On ne dira jamais assez l'importance du rire dans nos vies, le rire tout simple, le rire spontané.
Oui, voilà, à partir du moment où c'est pas le ricanement souvent qu'on
Bien
entend,
sûr.
Où c'est pas un rire méchant, mais un rire justement et de rire de soi-même aussi, parce
oui,
que c'est de ça
fait.
Dont je parle un peu dans le billet, finalement,
oui.
permet de prendre une saine distance sur les petites épreuves de nos vies. Et c'est vrai que ce billet s'attache au rire, mais le rire voilà entre amis, et puis le rire sur soi, même en solitaire,
bien
souvent,
sûr.
Ça permet de mettre à distance beaucoup de choses, au fond.
L'autodérision, et bien sûr, vous êtes sur une antenne juive, l'humour juif, bien sûr, bien connu. Vous dites que le rire nous fait accéder à la joie profonde d'être vivant, pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle définition du rire que celle-ci.
Ben, c'est gentil, mais c'est vrai que je suis sur une antenne juive et que l'humour juif est extrêmement, voilà, mais très cher aussi. Je trouve qu'il y a une autodérision et en même temps, même dans le plus grand désespoir, cette petite note quand même de, cette étincelle de vie, en fait, dans l'ombre, qui permet d'être, toujours vivant, toujours debout. Le rire, c'est très profond, en fait, rire, effectivement, et c'est la porte du cœur. Vous avez raison de le souligner. C'est pour moi la porte la plus immédiate au cœur.
Exactement.
Et tout part du cœur, au fond.
Alors, puisqu'on parle du cœur, vous évoquez dans ces petits chapitres, ces billets, qui sont vraiment très bien écrits, je le précise, des thèmes comme la maternité, un billet très, très sensible sur la maternité, sur l'amitié, sur la famille, sur le couple également. Tous ces sujets qui font partie de notre vie quotidienne et que vous évoquez avec beaucoup de délicatesse. Et parfois, vous nous faites même, je dirais, des confidences sur votre propre vie, sur votre propre existence. C'était important pour vous de le faire ?
C'est toujours bien de s'investir parce que effectivement parler de nos vies, c'est aussi parler de soi et de ce qui est quelque chose de merveilleux à mes yeux. Par exemple, parler de la maternité, pour moi, ça a été... j'ai eu des maternités, je le dis dans le livre, j'ai eu des maternités compliquées parce que des grossesses compliquées, mais en même temps, justement, c'était des temps de patience parce que, pour moi, elles devaient être allongées et donc, parce que j'avais pour les deux grossesses, des menaces d'accouchement prématuré, et en même temps, justement, aussi, ce temps de pause et d'union avec, de fusion quelque part avec ce bébé qui grandissait en moi, et toutes les mamans du monde me comprendront, ce moment merveilleux où on a l'impression de fusionner avec son bébé, où on a l'impression aussi de ne plus justement être seul, que cette solitude existentielle est totalement comblée par on est deux en un. Et donc je parle de ce miracle, en fait, de ce miracle où je vois aussi la main de Dieu, parce que on porte la vie, on a cette chance, nous les femmes, de porter vraiment la vie et de la sentir grandir en soi. Et je parle de cette merveille dans un temps qui a été très long, parce que pendant 9 mois, j'ai effectivement été 2 fois 9 mois couchée. Donc dans ce temps de patience, j'ai découvert aussi des moments magnifiques, en fait, de soleil.
Oui, tout à fait. Pour revenir à Etil Soum, qui occupe beaucoup vos pensées, j'ai relevé 2 passages. Si vous le voulez bien, ma chère Cécilia Duterte, je voudrais les partager avec nos auditeurs avant qu'ils courent acheter votre livre. Au tout début du livre, vous dites « Comment ne pas voir dans cette vertueuse prévention, donc on parle du Covid là, l'illustration magistrale que nous sommes tous reliés, et que prendre soin d'autrui et prendre soin de soi ne sont qu'une seule et même notion essentielle. En un autre temps, face à un autre virus, celui de la haine, cette lumineuse figure spirituelle qu'est Etil Soum avait compris qu'il s'agissait d'abord et avant tout de l'extirper de soi pour espérer un jour en laver le monde, témoignant ainsi de sa prise de conscience que tout commence par soi-même et que le bien-être collectif dépend des sentiments individuels que l'on porte à nos pères et des actions qui en découlent. » C'est parfaitement résumé, en fait, ce qu'est un être humain, être humain, être vivant et être solidaire les uns des autres.
Bien sûr, en fait, c'est la logique de la vie, c'est-à-dire la logique de l'élan qui nous anime, c'est de tendre la main à l'autre, parce que tendre la main à l'autre, c'est tendre la main à soi-même. Je veux dire, moi, j'en suis convaincue. Alors, ça, c'est vrai que c'est un regard sur la vie. Ça, c'est un des enseignements des écrits, un parmi d'autres, c'est tellement riche, les écrits d'Etil Soum. Mais un de ces enseignements majeurs, et que moi, j'aborde souvent dans mes conférences, c'est effectivement cette cette conscience, cette fulgurance qu'elle a eue, que tout est relié, que chacun de nous sommes reliés et que tout commence par soi-même. Effectivement, la haine, on doit commencer d'abord à l'extirper de soi pour pouvoir en laver le monde, c'est ce qu'elle dit. Oui, et c'est vrai que c'est applicable à toute chose. Et encore une fois, cette période de Covid nous a montré à quel point nous étions reliés et à quel point prendre soin de l'autre, mettre le masque, faire attention à cette fameuse distanciation physique, mais elle était nécessaire à l'époque, se vacciner, etc., participer de quelque chose de collectif et prendre soin de l'autre, ça commençait par soi-même, c'est-à-dire mettre un masque, etc. Et je trouve que là, pour le coup, on était vraiment dans un exercice très pratique d'une théorie que moi, personnellement, j'ai beaucoup théorisé dans mes livres, à travers notamment la figure des Tilsum, mais d'autres figures comme, par exemple, Marie-Madeleine, à qui j'ai accordé un roman à la rentrée littéraire de septembre, etc. Oui. Et ce sont des grandes figures mystiques qui nous apprennent que nous sommes tous reliés effectivement et que le monde, nous dessinons tous la fresque de l'humanité à notre niveau individuel.
J'ai eu l'impression, Cécilia Duterre, en vous lisant et en vous connaissant un petit peu maintenant depuis toutes ces années, que votre foi vous a aidé à apprendre la patience.
C'est certain que la foi ne peut qu'aider à... La patience, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui se cultive, mais tout au long de la vie. Oui. Moi, j'étais une très grande impatiente, justement. Quand j'étais jeune, j'étais très, très impatiente, toujours, et rien n'allait jamais assez vite pour moi. C'était vrai sur tous les aspects de ma vie. Et puis, maintenant, j'ai quand même la bonne cinquantaine. et je me rends compte qu'en fait, une des vérités de la vie réside dans cette patience. Oui. Et que tout arrive à point nommé, mais que le temps, alors là je dirais de Dieu, n'est pas notre temps, et qu'il faut aussi faire confiance à la vie, pour ceux qui, parce que je parle de Dieu, mais c'est vrai que pour certaines personnes le mot Dieu est compliqué à aborder, mais on peut parler de la vie au sens de ce grand cours qui nous traverse et qui est plus grand que nos vies, nos parcours, nos trajectoires, et je dirais qu'il y a une intelligence de cette grande vie et un temps de cette grande vie qui n'est pas le nôtre et qu'il faut aussi peut-être avoir cette humilité d'attendre que ce grand temps de la grande vie croise parfois nos aspirations et que tout arrive à point à qui sait entendre. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je crois que c'est très vrai en fait.
Oui, absolument. Alors à travers ces quatre grands chapitres, l'aube, l'heure méridienne, l'après-midi et le couchant, vous nous proposez des petits textes, des instantanés, comme je le disais au début de notre entretien, un temps hors du temps d'où surgit la lumière. C'est ainsi que vous m'avez dédicacé ce dernier ouvrage, chère Cécilia Duterre, et je reprends volontiers vos mots. En hébreu, la patience se dit sablanout, et c'est un mot qui est très souvent utilisé dans la société israélienne avec un geste, avec un geste que Jérôme vient de me faire. Évidemment, vous ne le verrez pas, mais c'est un mot qui est vraiment employé au quotidien dans la société israélienne, et c'est un joli mot. La patience, il nous faut la prendre pour continuer à vivre le quotidien le mieux possible. C'est vraiment un ouvrage qu'il faut découvrir et lire en éteignant son téléphone portable pour être complètement tranquille pendant le temps de la lecture. Patience du quotidien, c'est le titre de ce petit recueil formidable que nous venons d'évoquer avec son auteur, Cécilia Duterre. Merci beaucoup, chère Cécilia, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, Patricia. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli sur vos ondes.
Avec plaisir. Merci pour vos écrits. Merci pour votre patience également. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain ouvrage, je l'espère. Vous avez déjà des projets ou...
Je suis en train d'y réfléchir. Oui. Je suis en pleine réflexion.
Oui. Sur le thème.
Toujours avec une ligne spirituelle assez marquée.
Ah, très bien. Voilà. Très bien, entendu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Cécilia. Je vous dis à très bientôt sur Radio Judaïque à Lyon. Et on aura, j'espère, la patience d'attendre le prochain livre. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir Cécilia. On va tout de suite découvrir la chronique de Nicole Skinazy-Teboul consacrée au mot patience. Bonjour ma chère Nicole.
Bonjour Patricia. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot patience. C'est un nom féminin emprunté au latin patientia qui signifie action de supporter, d'endurer. La patience est une vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les vicissitudes ou les malheurs de l'existence. C'est aussi la qualité qui consiste à persévérer dans une entreprise longue et pleine d'obstacles. Salamandre en feu. Réussite et patience, s'armer de patience, école et leçon de patience, attentive et douce patience. User de patience, affaires et questions de patience, à bout la patience. Prendre patience, ange et jeu de patience, inépuisable et inlassable patience. Perdre patience, longueur de temps et patience, à rude épreuve la patience. Sur un blason, la patience. Et il y a le livre de Cécilia Duterre, Patience au quotidien. Les deux mots paraissent former un oxymore. Les deux mots ne s'entendent plus depuis longtemps ensemble. Notre patience est perdue. Notre patience a perdu la bataille du temps qui passe. Notre quotidien pressé, qui court avec le temps, qui court contre la montre, pourrait-il faire alliance avec un mouvement ralenti, une patience renouvelée ? Comment la patience pourrait-elle améliorer le rapport que nous entretenons avec le monde ? L'auteur nous offre la possibilité de penser la patience et de la faire nôtre. La patience pourrait nous permettre d'accueillir le monde dans sa complexité et sa richesse. La patience ferait de l'attente une chance à exister pleinement, la possibilité de regarder les beautés du monde et d'être à l'écoute d'autrui, à l'unisson du cœur qui bat au rythme d'une pulsation trop longtemps ignorée. Cécilia Duterre remet la patience au centre en rendant obsolète l'accélération inutile et l'attente enfiévrée. La patience serait une espérance, un nouveau lever d'action face aux impasses du monde. Je vous remercie.
Merci à vous, Nicole, pour cette chronique qui nous apprend la patience également. Après avoir présenté le livre de Cécilia Duterre, Patience du quotidien, on aura compris qu'il nous faut patienter chaque jour dans notre vie. On va marquer une pause musicale avec un titre de Louise Attaque, intitulé évidemment « Un peu de patience ». Et on se retrouve dans un instant. Je vous parlerai du nouveau recueil de poésie signé Viviane Cohen. Et nous recevrons Bernard Massoubre pour sa chronique « Les polars de Bernard », consacrée au livre de Romain Slocombe, « L'inspecteur Sadorski libère Paris ». Bonne écoute et à tout à l'heure.
Un peu de patience, comme l'eau coule et se faufile, toutes les absences, un jour ou l'autre, se défilent. Un peu de courage, quand les gens meurent. Où se détournent toutes les pages, un jour ou l'autre se tournent. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois. Tourne à toutes les pages, un jour ou l'autre se tourne. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. J'irai marcher au milieu des bois, lui raconter un peu de toi. J'irai marcher, parler tout bas, et puis crier une dernière fois, un jour ou l'autre. Everybody.
toujours sur Radio Judaïque à Lyon avec Patricia Drey, dans votre émission Entre vous et moi, consacrée à la littérature. J'ai le plaisir chaque semaine de recevoir des auteurs. Alors hélas, aujourd'hui, après Cécilia Duterte, j'avais prévu de recevoir notre amie Viviane Cohen, une auteure lyonnaise. Malheureusement, elle est souffrante, alors on lui souhaite vraiment un très rapide rétablissement et nous aurons l'occasion de toute façon de la recevoir dans une prochaine émission. Je voulais quand même évoquer ce deuxième titre paru aux éditions Spinel et signé Viviane Cohen. Il s'intitule Le tumulte de mes sentiments et c'est un recueil de poésie inspiré par ses sentiments quotidiens. On parlait de la patience du quotidien avec Cécilia Duterte. En fait, Viviane Cohen a eu l'immense douleur de perdre sa fille Emmanuelle en novembre 2019, le 13 novembre 2019. Elle avait écrit un premier livre intitulé À ma fille, mon étoile bipolaire, et c'est à cette occasion que nous avions eu le plaisir de la recevoir pour à la fois permettre à Viviane de porter témoignage et hommage à sa fille Emmanuelle, et également pour nous alerter sur la bipolarité, les troubles bipolaires, cette maladie qui a eu raison de la joie de vivre et de la jeunesse d'Emmanuelle. C'est par la poésie que Viviane Cohen a tenté de transcender cette douleur indicible, par un premier recueil donc publié par les éditions Baudelaire, qui a été très bien accueilli par les lecteurs. Et en fait, la poésie, l'écriture font partie désormais de son quotidien et l'aident sans doute à continuer à poursuivre le chemin. Et c'est ainsi que ce nouveau recueil de poésie intitulé justement « Le tumulte de mes sentiments » vient de paraître. Là, c'est au mois de janvier qu'il a été publié par les éditions Spinel. Et de fait, les textes qui composent ce recueil évoquent les sentiments éprouvés depuis le séisme qu'a constitué le décès de sa fille. On sent que l'écriture, la poésie notamment, c'est vraiment une nécessité pour apaiser la douleur de cette mère meurtrie. Donc je vous rappelle le titre, Le tumulte de mes sentiments, paru aux éditions Spinel, et c'est signé Viviane Cohen, que nous aurons l'occasion de recevoir dans une prochaine émission. On lui souhaite vraiment, Refoua Chelema, un très bon rétablissement et qu'elle nous revienne très vite. Voilà, ça c'était pour ce premier livre dont je voulais vous parler. Et tout de suite, on va retrouver notre ami Bernard Massou. Enfin, quand je dis tout de suite, c'est dans quelques secondes, le temps que Jérôme l'appelle. Ça me permet de vous préciser deux informations que je voulais vous communiquer. La prochaine fête du livre de Bron qui est prévue du 8 au 13 mars prochain, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler certainement. Et puis la fête du livre jeunesse de Villeurbanne du 30 mars au 3 avril. C'est les deux prochains rendez-vous littéraires, des rendez-vous qui réunissent un très grand nombre de lecteurs et d'auteurs, évidemment, qui viennent à votre rencontre, à notre rencontre. Donc Bron du 8 au 13 mars, c'est bientôt, et Villeurbanne, la fête du livre jeunesse, du 30 mars au 3 avril. Donc notez bien ces dates si vous êtes passionné de littérature, et puis on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions. Je crois que nous avons Bernard Massoubre en ligne. Bonjour mon cher Bernard.
Bonjour ma chère Patricia.
Bonjour Bernard, ravi de vous recevoir pour votre chronique, les polars de Bernard. Tiens, une question avant, d'où vous vient ce goût pour le genre du polar qui est particulièrement en vogue depuis quelques années ?
Oui, il se trouve qu'il est en vogue depuis quelques années, comme vous dites. Moi, je m'y intéresse depuis longtemps. Une cinquantaine d'années.
Ah oui.
Oui, j'ai commencé. Mais en fait, j'aime le polar, mais j'aime aussi la littérature, j'aime la lecture d'une façon générale.
C'est ça, oui, en général, oui. D'accord. Oui, avec un goût plus prononcé pour le polar.
Oui, entre autres. Ouais.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un auteur qui est très réputé, Romain Slocombe, et de son héros, le non moins célèbre inspecteur Sadorski. C'est un livre qui est paru au mois de janvier dernier, hein. C'est un livre très récent. Donc c'est l'inspecteur Sadorski, Libère Paris. Alors quelques mots sur l'auteur peut-être, Bernard.
Oui, alors c'est un auteur donc qui s'appelle Romain Slocombe, comme vous l'avez indiqué. Il a 69 ans, il est né à Paris et il est d'origine franco-britannique. Ah. Et sa grand-mère maternelle était juive.
D'accord.
Et, et c'est un artisan très prolixe, tant au niveau des romans, des polars, nous allons en parler. Il a été réalisateur, traducteur. Il a fait beaucoup de bandes dessinées sur le Japon, parce que c'est un spécialiste du Japon.
Je ne savais pas ça.
Il est photographe aussi.
D'accord.
Donc, en fait, là, je vais vous parler du secteur polar avec deux trilogies. J'en profite pour dire que c'est le directeur de l'ancien espace Hillel, Ilan Levy, qui m'avait fait découvrir.
Ah, d'accord. On salue Ilan.
Voilà, que l'on salue. Et donc, il y a deux trilogies. Il y a la trilogie des collabos. Je vous recommande, en ce qui nous concerne, l'étoile jaune de l'inspecteur Sadowski.
Oui. Mmh.
Et la trilogie de la guerre civile, dont l'inspecteur Sadowski libère Paris, est le second livre, puisque le troisième paraîtra en 2022, donc
d'accord,
cette année. Alors, les aventures de cet inspecteur, il était inspecteur principal adjoint, ce qui correspond maintenant à brigadier chef, ce n'était pas tout à fait les mêmes grades.
Ouais.
Et en fait, ça part d'une histoire vraie, où Slocomb était tombé sur un récit d'arrestation par deux inspecteurs de la troisième section des renseignements généraux, comme pour Sadowski, et il s'occupait du rayon juif. Il y a le rayon poisson, puis il y avait le rayon juif.
Rayon juif.
Et c'était dirigé par un inspecteur qui s'appelait Sadowski. Donc, il a très peu modifié le nom, Sadowski en Sadowski, et ce glorieux personnage était surnommé le mangeur de juifs.
Ah oui, sympathique, ouais.
Oui, il était sympathique, comme le Sadowski dans le roman.
Dans le roman, ouais.
Et Sadowski est décrit par Slocombe comme quadragénaire, petit, laid, colérique, antisémite, anticommuniste, pétainiste et omnubilé par le sexe.
Ah, d'accord.
Oui. Et cet inspecteur a la particularité d'héberger clandestinement une jeune juive qu'il a mise enceinte, et il est très amoureux de cette femme. Elle vit chez eux, hein.
Ah oui.
Et il est très amoureux de cette femme et surtout de l'enfant qui est né de leur union.
D'accord.
Et j'en profite pour faire un parallèle avec Maigret, puisque sort aujourd'hui un film sur Maigret avec Depardieu.
Oui, signé Henri Lecomte, hein, je crois.
Patrice,
Lecomte. Non. Comment il s'appelle? Non, c'est Lecomte. Patrice Lecomte.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit avec beaucoup de diplomatie, je n'ai dit que le nom de famille. le prénom n'était pas bon. Et en fait, Slocombe est un grand admirateur de Maigret, et il n'y a jamais eu de Maigret dans le Paris occupé, sous l'occupation. Et donc, c'est une façon de faire vivre une intrigue policière sous l'occupation.
D'accord. Une parenthèse, alors, Bernard, c'est bien, oui. Patrice Lecomte. Hein.
Voilà, Patrice Lecomte.
Oui, tout à fait.
Voilà, un film avec Depardieu qui sort aujourd'hui.
Exactement.
Alors, une des particularités de ces romans, en tout cas de ces polars, moi je n'ai pas lu les autres, c'est extrêmement bien documenté sur l'occupation.
Oui.
Et on lui a posé la question, et il a dit qu'il avait consulté beaucoup de journaux intimes de l'époque,
oui,
ainsi que les archives, notamment celles de la préfecture de police, avec les dossiers d'épuration des policiers collabos ou tortionnaires, les rapports des renseignements généraux et les rapports de police sur les attentats.
Ah oui, effectivement, il y a un gros travail de recherche et de documentation. Oui,
oui. C'est pour ça, c'est une des façons de répondre à votre question tout à l'heure sur mon amour du polar.
Mm-hmm.
C'est aussi, pour moi, un amour de l'histoire.
C'est ça.
Des histoires, des États-Unis des années 50, de la période de la collaboration, et ça c'est extrêmement bien décrit, avec tous ces mondes qui gravitent autour, les Allemands, la milice, les collabos, tout ça est très bien décrit. Alors, ce livre s'appelle donc L'inspecteur Sadowski libère Paris,
mm-hmm,
qui est un titre un peu étonnant pour un membre des renseignements généraux collabo. Et en fait, on est à la fin de la guerre,
oui.
En 1944, et ça commence à sentir le sapin un petit peu pour lui. Et donc, il va commencer à créer des liens avec la résistance.
Oui.
Et aussi, il y a un passage qui est très, très éloquent avec les Juifs. C'est-à-dire qu'il repère un Juif, parce qu'il a des critères hein, pour les Juifs. Il a une checklist, le nez, les cheveux.
Oui, machin, classique, quoi. Oui,
oui, il y a la checklist qui va bien. Et donc, il arrive à retrouver un Juif qui s'était caché. Et au lieu de l'envoyer à Drancy, il lui dit, ben voilà, je te laisse la vie sauve parce que je suis un résistant, mais en contrepartie, tu me feras une lettre à la Libération qui ouais. dira que...
Pour témoigner, tout. Voilà, pour témoigner du fait qu'il lui aurait sauvé la vie.
Voilà.
Ouais.
et je trouve ça, enfin, c'est terrible de vérité, criant
oui.
de vérité.
Oui, tout à fait. Et si vous permettez, Bernard, oui. ça m'évoque un autre livre, celui de Sorge Chalandon, que vous avez peut-être lu, Enfant de salaud, mais toute sa bibliographie qui témoigne de ses recherches sur son propre père, qui se faisait passer pour un résistant, alors qu'en fait, c'était un collaborateur. Donc voilà, c'est un rapprochement que je voulais vous soumettre.
Et Chalandon a écrit des livres admirables.
Formidable, oui.
Oui, oui. Et en fait, on est à la fin de la guerre parce que les Allemands s'enlisent sur le front russe.
Oui.
Et puis les Américains et les Anglais commencent à percer en Normandie. Dans le livre, ils arrivent même à Caen. Mm. L'autre raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est l'assassinat de George Mandel. George Mandel était un homme politique de l'entre-deux-guerres. Il a été ministre, oui. Il a été député. Et il a été tué dans la forêt de Fontainebleau. Mmh. Il était juif. Il a pris le nom de sa mère qui était juive, mais le nom de son père aussi, puisqu'il s'appelait Rothschild.
Ah oui.
Donc, bon, il a quand même gardé un nom juif et il a été haï de tout un tas de gens. Mmh. Il a été, en forêt de Fontainebleau, tué de 16 balles dans le dos par un milicien. Et cet épisode est très bien décrit dans le livre, et notamment, pour savoir, il a été tué par la milice. On pense que la SS était derrière, on pense que les ordres avaient été donnés par Hitler, et Slocum donne une autre hypothèse, qu'il aurait pu aussi être tué par les communistes, parce que Mandel était farouchement anti-communiste.
Ouais.
Et ce passage est très bien décrit dans le livre, et il a été tué suite aux représailles de Philippe Henriot, qui était ministre d'État à l'information et à la propagande du gouvernement de Vichy,
oui.
Et qui était orateur de Radio Paris,
oui.
Qui était la voix de son maître, mm-hmm. Et il haïssait Pierre Dac, qui était juif, et il en parlait tout le temps à la radio.
Oui.
Et en fait, le slogan qui était affiché sur à Paris, c'était à propos de Philippe Henriot, il disait la vérité, ils l'ont tué. Mm. Et ça nous ramène à un épisode de justement suite à la vengeance de Henriot, de Arieux-la-Pape, le 29 juin 1944,
oui.
Où Touvier a fait fusiller 7 juifs pour venger justement la mort de Henriot.
Absolument, et c'est une cérémonie qui honore la mairie de Rieux, le maire actuel, mais les maires précédents également. Chaque année, le dernier dimanche de juin, nous nous retrouvons devant l'enceinte du cimetière de Rieux-la-Pape, contre le mur contre lequel ces 7 juifs ont été fusillés en représailles, donc comme vous venez de l'indiquer, oui.
Ouais, ouais. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, si vous me permettez,
bien sûr, mon cher Bernard.
Et ça va être ça concerne aussi l'actualité,
oui.
Récente. C'est que on a un homme politique, un ancien journaliste candidat à l'élection présidentielle,
oui.
A prétendu que 75% des Juifs français avaient été sauvés. Par Pétain.
Mmh.
Par exemple, aux Pays-Bas, c'est l'inverse, c'est-à-dire que 25% des Juifs hollandais, néerlandais, qui ont été sauvés.
Ouais.
Donc c'est vrai, 75% des Juifs français ont été épargnés, ouais. Mais contrairement à ce que dit ce candidat, ils ne l'ont pas été par Pétain.
Par Pétain, voilà. C'est juste la deuxième partie de la phrase qui est importante, oui.
Oui. C'est important à dire parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit.
Bien sûr.
Surtout quand c'est dit par un co-religionnaire.
Oui, absolument. Absolument. Mmh. Donc, ce livre signé Romain Slocombe, l'inspecteur Sadorski libère Paris, nous plonge dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez aimé ce livre, j'imagine, Bernard, hein ?
Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre et tous les livres qu'il a fait sur cette période de l'occupation. C'est absolument remarquable.
Oui, l'inspecteur Sadorski, c'est un personnage récurrent dans la bibliographie de Romain Slocombe, donc un personnage à suivre, dont on suit les aventures avec beaucoup d'intérêt. Je pense que vous nous parlerez également d'autres ouvrages de Romain Slocombe dans des prochaines chroniques, Bernard, certainement.
Ce sera avec plaisir,
Oui.
Et puis la prochaine fois, si vous avez la gentillesse de m'inviter...
Bien sûr.
Je vous parlerai d'un livre qui vient de sortir de Michael Wallner, qui s'appelle Shalom Berlin.
Ah, Shalom Berlin, oui, je l'ai reçu, effectivement. Oui. Ah, très bien, vous allez nous en parler le mois prochain, alors.
Voilà, et là aussi, c'est parfait. C'est une plongée dans la géopolitique d'une ville que je connais bien.
Oui, très bien, donc on se réjouit de vous recevoir le mois prochain pour cette nouvelle chronique. Merci, mon cher Bernard. Pour cet échange, et puis bonne lecture à vous, et on se retrouve dans un mois.
À bientôt.
Au revoir, Bernard.
Au revoir.
Voilà, alors le rendez-vous est pris avec Bernard donc pour ce livre. Hein, c'est une chronique qu'il nous proposera sur ce livre Shalom Berlin. Pour ma part, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Sophie Carquin pour le livre intitulé Juste à côté de moi qui vient de sortir dans le cadre de la rentrée littéraire 2022. Je m'aperçois que tout à l'heure, je parlais de la rentrée littéraire 2021. C'est bien 2022. Hein. J'ai encore du mal à me faire à cette nouvelle année. Sophie Carquin, qui est écrivaine et journaliste. Elle a écrit plus de 200 histoires, contes et romans pour enfants et adultes qui ont été traduits en plusieurs langues. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an ou deux, je l'avais reçue pour son dernier livre intitulé Le roman de Molly N aux éditions Charleston. C'est toujours aux éditions Charleston que Sophie Carquin propose ce nouvel ouvrage juste à côté de moi. Je ne vous en dis pas plus. C'est un thème intéressant. Sur un symptôme que je ne connaissais pas bien, le syndrome Hikikomori. C'est le nouveau visage du mal-être adolescent. Donc Sophie Carquin nous en parlera. Et puis l'émission du 9 mars sera consacrée à l'amour filial, l'amour de filles pour leur père. Et ces deux filles, ces deux femmes que j'aurai le plaisir de recevoir, ce seront Eliette Abécassis et Ariane Bois, puisqu'en effet, Eliette Abécassis vient de faire paraître aux éditions Robert Laffont un livre intitulé La Transmission, qui est un récit, un récit qui témoigne de cette relation de proximité, de grande proximité intellectuelle et bien sûr sentimentale, entretenue entre Eliette Abécassis et son père, Armand Abécassis. Vous le connaissez tous. Donc on parlera avec Eliette Abécassis de ce livre et avec Ariane Bois, Éteindre le soleil, un livre qui vient de paraître début février aux éditions Plomb. Ariane Bois évoque bien sûr l'histoire de son propre père dans un récit intime et bouleversant intitulé Éteindre le soleil. Donc ça nous promet de belles rencontres pour les prochaines semaines. Je vous avoue que j'ai reçu énormément de livres ces dernières semaines là, dans le cadre de cette rentrée littéraire d'hiver, et donc j'aurai beaucoup de plaisir à recevoir ces prochains invités pour vous, pour, j'espère, vous inciter à découvrir leurs ouvrages. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle donc les dates des prochains rendez-vous littéraires importants de notre région. Le salon du livre de la fête du livre de Bron entre le 8 et le 13 mars prochain et la fête du livre jeunesse de Villeurbanne du 30 mars au 3 avril. Je suis certaine que notre amie Joyce qui anime cette chronique littérature jeunesse dans mon émission sera au rendez-vous de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne, parce que c'est vrai que Gérard Picot, qui en est le maître d'œuvre, invite de très nombreux auteurs de littérature jeunesse, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec ces auteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne lecture à tous et à bientôt. Au revoir.
I'm your dirty king, you're my girl, you are my reason to believe.